Bienvenue à tous dans le mag de l'été.
Je pense qu'on peut tout faire, moi, avec le corps. Je pense qu'on a une grande souplesse naturelle, comme les animaux, par exemple. Il y a beaucoup de choses, je veux dire, là-dessus. Moi, je suis très sensible à l'écoute du corps des autres aussi. Dans la concentration, moi, j'ai une faculté de concentration qui est un peu, comment dire, qui bouge beaucoup. Enfin, je veux dire, voilà, c'est ma concentration à moi, c'est ma pudeur, c'est des choses qui ressortent comme ça. Chacun a ses gris-gris. Pour moi, toute forme de travail dans ce métier, c'est comme une superstition presque, je veux dire. Je crois pas à la sensibilité des acteurs. Au contraire, il y a une espèce de vision, de choses comme ça qu'on reçoit. Le seul art que j'ai, c'est la liberté et c'est la disponibilité, c'est tout.
Bonjour Anaïs de Moustier.
Bonjour.
Quel est le texte que vous venez de nous lire ?
C'est Gérard Depardieu qui parle dans une archive de l'INA de l'émission Ciné Regard en 79 sur le tournage de Loulou de Piala.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag de l'été, le magazine culturel de vos débuts de soirée sur France Inter. C'est une étoile que nous accueillons aujourd'hui dans le Mag de l'été qui illumine de sa présence radieuse le cinéma français depuis plus de 15 ans. Si je dis étoile et par star, c'est parce qu'Anaïs de Moustier ne porte en elle aucun stigmate de la célébrité. Spontanée, libre, naturelle, joyeuse, l'esprit de sérieux semble avec elle n'avoir pas droit de cité malgré son incroyable filmographie depuis ses débuts à 13 ans dans Le Temps du Loup de Michael Haneke aux côtés d'Isabelle Huppert. Depuis, François Ozon, Christophe Honoré, Pascal Ferrand, Robert Guédiguian, Valérie Donzelli, Laurent Pariseur, Quentin Dupieux, Isabelle Tchaïka, entre autres, l'ont choisi pour incarner leurs héroïnes. Elle croque dans tous ses rôles avec autant de gourmandise que de pertinence, d'intensité que de légèreté. Nous sommes très heureux d'accueillir cette actrice aussi piquante que brillante.
France Inter. Da. Le Mag de l'été. Anna Sigalevitch.
Nicolas Pariseur, pas Laurent Pariseur. J'ai fait une erreur, pardon. Anaïs de Moustier, pourquoi vous avez eu envie d'entrer dans l'émission par ce texte de Gérard Depardieu?
Parce que vous m'avez demandé de trouver un texte. Mmh. Et puis que je trouve que la parole de Gérard Depardieu est riche quand il parle du métier d'acteur. Ça a toujours l'air à la fois très simple, très évident. Mmh. Et en même temps, il se permet de la poésie, presque du mysticisme. Et donc je trouve que c'est toujours inspirant.
Qu'est-ce qu'il incarne pour vous, Gérard Depardieu ?
Une sorte de monstre, d'homme vénéré. C'est hallucinant. Et l'admiration que j'ai pour lui est vraiment énorme. Il fait partie de mon film préféré, qui est donc Loulou de Piala. Et puis, pour moi, c'est vraiment la quintessence de l'acteur, de la liberté, de la disponibilité, de l'invention. Enfin, ouais, on se sent tout petit à côté de lui.
Alors c'est assez drôle que vous ayez choisi ce texte, parce que sans qu'on se concerte, hein, je précise, on avait choisi nous aussi de vous faire entendre Gérard Depardieu, qui chante une femme aussi que vous aimez beaucoup, Anaïs de Moustier, c'est Barbara.
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, à Göttingen. Pas de quais et pas de rengaines qui se lamentent et qui se traînent, mais l'amour y fleurit quand même. À Göttingen, à Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans. À Göttingen, et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence. À Göttingen, bien sûr, nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes, mon Dieu que les roses sont belles. À Göttingen, à Göttingen, nous avons nos matins blêmes, et l'âme grise de Verlaine, eux c'est la mélancolie même. À Göttingen, à Göttingen, quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là à nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent. Mais les enfants, ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Au fait que jamais ne reviennent le temps du sang et de la haine. Car il y a des gens que j'aime à Göttingen, à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. La 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 la. C'est bien joli tout de même, c'est bien joli tout de même à Göttingen, à Göttingen. Mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen.
Göttingen de Barbara par Gérard Depardieu. Anaïs Dumoustier, vous l'avez vu en concert, hein, Gérard Depardieu chanter Barbara.
Oui, je l'avais vu au Cirque d'Hiver.
C'est impressionnant, vous le disiez en l'écoutant, à la fois la liberté qu'il a et la justesse de
oui,
son
oui,
interprétation.
Oui, il s'en empare vraiment. Enfin, Barbara, c'est quand même assez intouchable. Et lui, déjà, il est légitime parce qu'ils ont partagé cet amour, cette amitié. Et puis parce qu'il a ce qu'on disait de lui comme acteur, quoi, cette liberté, cette virtuosité qui font que les reprises sont plus que belles.
Oui, parce que c'est à la fois très personnel et en même temps, on sent qu'elle est tout le temps là, je trouve. Il ne cherche pas à incarner...
Exactement. Ouais, il cherche pas à se mettre. En fait, il a un tel charisme qu'il a pas besoin d'en rajouter. Donc il s'empare des choses. Et moi, je me souviens quand je l'avais vu, je me souviens surtout de son corps en fait et de sa densité et de la. Ouais, à quel point il était immobile comme ça sur scène et en même temps tellement plein de lui. C'était vraiment merveilleux.
Et d'elle aussi.
Ouais.
Anaïs Dumoustier, alors la saison qui vient sera très riche pour vous, puisque vous serez à l'affiche d'au moins 3 films. Alice et le maire de Nicolas Pariseur, Gloria Mundi de Robert Guédiguian et La fille au bracelet de Stéphane Dumoustier. Alors commençons par celui qui sortira en premier, le 2 octobre. C'est Alice le maire, le deuxième long métrage de Nicolas Pariseur, après Le Grand Jeu. C'est un film dont on a beaucoup parlé au moment de Cannes, hein, où il était en sélection à la quinzaine des réalisateurs. C'est un film extrêmement bien mis en scène, vraiment que je trouve remarquable d'intelligence, de subtilité, de drôlerie, de justesse, d'élégance. Enfin, il y a beaucoup d'adjectifs qui sont appelés quand on parle de ce film, dans lequel vous et Fabrice Lucchini, vous êtes absolument fabuleux aussi. Est-ce que je peux vous laisser, Anaïs Dumoustier, nous résumer un petit peu le synopsis d'Alice et le maire ?
Oui, je vais essayer. C'est l'histoire donc du maire de Lyon, interprété par Fabrice Lucchini, qui est en panne totale de réflexion. Il n'arrive plus à penser, il n'arrive plus à réfléchir et est engagé à la mairie de Lyon une jeune femme, Alice, que j'incarne, qui est normalienne et qui est censée lui réinsuffler l'énergie de la pensée et voilà. Et le film raconte leur rencontre, leur histoire et leur évolution à tous les deux le temps du film.
On va écouter la bande-annonce d'Alice et le maire de Nicolas Pariseur.
Vous connaissez mon parcours ?
Je sais que vous êtes un homme politique. Vous êtes le maire de Lyon.
Ils ont payé le prix.
Le maire, il va bien ?
Ouais.
Je vais essayer de vous exposer ma situation. J'ai toujours eu des idées. J'avais 25, 40, 50 idées par jour.
Non. Non. Oui.
Et puis je me suis réveillé un matin, j'avais plus d'idées. J'arrive plus à penser. Comment vous vous appelez ?
Alice Eman.
Bon, Alice Eman, il faut que vous me fassiez penser.
Je vais être brusque.
Allez-y.
Vous n'avez pas l'impression de ne plus pouvoir régler un seul problème ? Moi, je pense que c'est ce dont les citoyens ont l'impression.
Monsieur le maire, excusez-moi, on nous attend.
Non, non, on nous attend pas, on m'attend moi. Vous distribuez ça à tout le monde et vous leur dites que... Il remplace et il annule l'autre discours. Ok ?
Ok.
Son nouveau bureau crée un énorme scandale à la mairie.
Un scandale ?
Il y a même une pétition qui circule.
Il faut rester modeste. Pas de mégalomanie, pas de gigantisme. Ça va les notes. Je fais pas un cours sur Spinoza. Alice Eman, est-ce qu'elle prend des notes ? Elle prend pas de notes.
L'influence que tu as sur lui, il faut qu'elle cesse. En fait, t'es en train de me dire qu'il doit nous voir arrêter de penser, c'est ça? Je suis désolée, mais je n'ai plus le même. Et je te remercie, Alice.
Alice, on va écrire tous les deux le discours de ma vie.
Anaïs de Moustier, quel est pour vous le sujet d'Alice et le maire?
C'est une question très difficile parce que justement, on dit beaucoup, c'est un film politique. Alors déjà, je pense que c'est plutôt un film qui a pour cadre la vie politique, mais c'est pas un film militant, par exemple. Et puis justement, quand je réfléchis au film, j'ai l'impression qu'il brasse énormément de sujets. Moi, ce qui m'a frappé quand j'ai lu le scénario, c'est justement comment l'intime prenait plus de place que le politique et comment derrière les hommes politiques, derrière les fonctions, se cachent des êtres humains avec toute la complexité de ces derniers et comment le film raconte à la fois l'histoire de cette jeune femme qui est très seule, comment il y a un conflit entre la pensée et l'action. Elle est surdiplômée, c'est aussi
et en même temps elle sait pas trop quoi faire de
voilà elle est
de
pas
de
du tout
vie.
Ambitieuse, elle a du mal à trouver sa place et donc ça c'est quand même assez générationnel, tous ces jeunes qui ne savent pas quoi faire de ce qu'ils ont appris, elle a des amitiés mais elle est très seule. C'est un film qui est vraiment assez complexe et qui justement je trouve est riche parce qu'il n'y a pas un gros sujet très clair.
Alors c'est un film qui est très écrit, qui est très dialogué, dans lequel la parole est essentielle, elle est à la fois vivifiante et stimulante.
Oui, ça m'a fait très plaisir parce que c'est un plaisir que j'ai quand je fais du théâtre, par exemple. Ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais je sais que j'ai un goût de la langue et des mots, et le scénario était très dense, quoi. Après, je me disais, bon, comment on va rendre ça digeste, comment ça va s'incarner, et grâce à Lucchini, c'est, je trouve, très, très jubilatoire, parce qu'il n'y a aucun doute sur le fait que Lucchini peut être un homme politique. Et lui, il s'est emparé de tous ses discours, et puis on a des longues conversations sur des thèmes politiques qui sont très bien écrites, et je trouve que c'est assez plaisant de voir un film français qui fait la part belle aux conversations et qui s'autorise le temps des dialogues. C'est vraiment, Nicolas Parizeau n'a pas peur de faire de longs plans séquences avec des discussions sur des sujets importants.
Et philosophiques.
Et philosophiques.
Pas, a priori évident.
Pas évident. et c'est très agréable, en fait. Enfin, en tout cas, j'ai croisé beaucoup de spectateurs qui trouvent ça très agréable.
Je confirme. Alors, Nicolas Parizeau, il parle de l'influence qu'a eu Éric Rohmer sur lui. C'est vrai qu'on y pense, notamment justement de la parole qui n'a pas, il dit que la parole qui n'a pas qu'une valeur pour elle-même, mais qui est aussi une action, une des modalités en fait d'action des personnages au-delà du récit.
Oui. Bah, c'est intéressant d'ailleurs parce que justement c'est ce qui se passe pendant le temps du film entre les deux personnages. Le personnage de Lucchini est en panne et c'est par la conversation avec Alice, c'est par le dialogue qu'il va retrouver une forme de mouvement.
C'est ça, au-delà de ce qui se dit, c'est la mise en mouvement par le dialogue aussi.
Exactement, ouais.
Et ça c'est vrai que c'est intéressant. Alors vous parliez de Fabrice Lucchini, en effet vous êtes face quand même à l'empereur, on peut dire, du verbe. Non, mais objectivement. Voilà, j'imagine que ça devait être un petit peu impressionnant au départ de vous retrouver face à lui ou peut-être pas. Enfin, comment la rencontre, comment ça s'est construit entre vous?
C'est vrai qu'on m'a beaucoup mise en garde. On m'a dit, oh là là, Lucchini. Oh, on m'en parlait comme d'une sorte de démon. J'avais l'impression qu'il fallait que je me prépare avec un bouclier. Et je pense que moi, quand il s'agit de cinéma, j'ai une forme d'inconscience. Enfin, je me dis, bon, je sais pas, j'étais pas très inquiète. Au contraire, j'étais assez excitée de travailler avec lui. Je savais qu'il serait l'homme de la situation, puisque évidemment dès les premières lectures qu'on a faites, j'ai vu qu'il était qui jubilait d'incarner ce personnage-là, et je trouve qu'il est vraiment l'homme idéal. Donc j'ai surtout pris du plaisir à travailler avec lui, et je n'ai absolument pas la même méthode que lui, par exemple. Mais ça ne me pose pas de problème. Enfin, je veux dire, je me suis rendu compte en tournant des films que chaque acteur a sa cuisine. C'est ce que disait Depardieu là, dans le texte que j'ai lu. Chacun a ses gris-gris. Et en fait, personne ne fait office de loi en termes de jeu. Donc, je me suis dit, lui, il a besoin, par exemple, il a envie de faire plein de lectures avant, de faire plein d'italiennes et tout. Je les ai faites avec lui s'il avait envie, mais je me sentais pas... J'avais appris mon texte, par exemple, 4 fois plus tard que lui. Et c'était drôle parce qu'il m'appelait, il me disait j'aimerais bien qu'on fasse des italiennes au téléphone, et moi j'étais en vacances, j'avais pas du tout commencé à travailler. Ça j'avais pas trop osé
les italiennes, faut dire que c'est des lectures en fait, c'est quand on dit le
voilà, les italiennes c'est répéter son texte en fait à plat sans jouer, mais juste s'échanger le texte pour s'entraîner.
Pour s'entraîner.
Et donc j'ai vraiment surtout été enthousiasmée par son énergie, parce qu'il est quand même extrêmement généreux. Il a abordé ce film-là avec une grande énergie très fédératrice. Il croyait beaucoup en Nicolas Pariser et il avait raison. Et je pense qu'il avait beaucoup de respect pour lui. Et donc, il était vraiment là pour le projet. Et il a servi le film et je le trouve assez extraordinaire dans ce rôle.
Je le trouve aussi assez admirable. On sent vraiment qu'il lâche quelque chose et qu'il abandonne quelque chose. Enfin, on le voit comme, en tout cas, on l'a pas vu depuis longtemps.
Et après, je pense aussi que c'est lié au rôle, parce qu'en fait, comme voilà. On a l'habitude d'avoir Lucchini très à l'aise, et là, c'est la première. Enfin, voir un Lucchini mettre genou à terre et dire, en fait, je n'y arrive plus, je suis en roue libre. Il trimballe avec lui quand même son image, comme chaque acteur, ça. Cette image, en fait, elle sert le film, quoi, parce que il est extrêmement touchant, je trouve, quand il dit « je n'y arrive plus ».
Extrêmement touchant, et aussi, je pense que vous n'y êtes pas pour rien. C'est-à-dire que, moi, j'ai l'impression que vous le faites bouger, en fait, dans le film, et qu'il accepte, et qu'il prend un plaisir certain, en fait, à se laisser surprendre par vous. Alors, bien sûr, ce sont les rôles, c'est ce que vous jouez dans le film, mais... Moi, comme spectatrice, j'ai aussi l'impression qu'il y a une vraie rencontre entre deux acteurs, entre deux générations, entre deux méthodes, vous le dites. Mais on sent qu'il est, lui, aux aguets, qu'il a son œil qui frise et qui s'amuse, en fait, de ce que vous lui proposez.
Ça, franchement, j'en sais rien. Faudrait lui demander. Mais je pense qu'il a été content de travailler aussi. Mais en même temps, c'est sûr qu'en tout cas, je l'ai senti très avec moi. Au cinéma, c'est très facile de jouer chacun dans son coin et puis de se croiser et puis de jouer quand on est filmé et puis pas vraiment quand on est hors champ. Moi, j'ai toujours eu l'impression de jouer avec lui, qu'il me répondait, qu'on s'écoutait. C'était très agréable.
Alors, ce qui est intéressant aussi dans le film, c'est qu'il y a une tension permanente, mais qui ne bascule pas dans le charnel.
Oui. Alors ça, c'est encore une des grandes intelligences de Nicolas Pariser, c'est qu'effectivement, on peut s'attendre à une histoire d'amour. J'ai déjà vu des commentaires sur Internet là, de gens qui disent « Ah, encore une fois, la jeune femme va se taper le vieux, le vieil homme politique ». Ce n'est pas ça du tout, voilà, sachez-le avant d'aller voir le film. Et donc ça, oui, c'est effectivement, la relation, elle est très singulière, elle est vraiment propre au film, en fait. C'est-à-dire qu'ils se rencontrent, il y a de la tension. Et c'est marrant, parce que moi, je trouve qu'à un moment, ils rédigent un discours ensemble.
Ça, c'est une scène qui est capitale dans le film. C'est un plan séquence.
Très long.
Vous êtes tous les deux donc dans le champ.
Oui.
Et vous écrivez ensemble un discours.
Exactement. On prépare un discours qu'il est censé faire. Et quand j'ai vu la scène, j'y ai pas du tout pensé en la faisant, mais quand je l'ai vue, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie tension érotique. Effectivement, je me suis dit, c'est drôle. On a l'impression que l'échange des idées, la stimulation intellectuelle, les excite, en fait. Et ça, c'est assez agréable à voir aussi.
Alors, autre grande réussite du film, c'est la justesse avec laquelle est croqué un milieu.
Oui.
Je trouve que c'est très, très rarement crédible. Pardon, mais dans le cinéma français, c'est souvent caricatural. Et là, en fait, on y croit totalement. On croit à ce milieu politique important, mais quand même provincial. On croit complètement à tous les personnages.
Oui, oui, ça, c'était un des paris du film. Effectivement, quand un film s'insère dans un milieu et ne réussit pas, c'est une catastrophe. Et là, le film est très juste à cet endroit-là. Je sais que Nicolas Pariser a autour de lui, dans son entourage proche, des gens qui travaillent en politique, ou en tout cas qui ont accompagné des hommes politiques, donc il est très renseigné, en fait. Après, je pense qu'il a une grande intelligence, enfin vraiment, on parle peu de lui, mais tout ça, c'est lui, et il a une sorte de finesse.
De finesse, de subtilité.
De subtilité dans le choix des acteurs, qui sont tous...
Excellent, il faut les citer, les acteurs, donc il y a vous, il y a bien sûr Lucchini, il y a Léonie Simaga, qui est incroyable, Alexandre Steiger, Pascal Rénéric, Nora Hamzaoui, Maud Weiler, enfin, il y a vraiment une brochette d'acteurs. Tout le monde est d'une... Et parfait.
Antoine Reynard aussi.
Antoine Reynard, absolument, ouais. Pile à l'endroit où il faut.
Oui, oui, c'est vraiment génial. Pour moi, c'était génial parce que j'étais là tous les jours et à chaque fois, je voyais arriver des gens qui tournaient parfois deux jours, ouais, parfois une journée et qui étaient exactement à l'endroit où il fallait, quoi. C'était vraiment incroyable. Et il dirige assez peu, Nicolas Pariser. Et ça, c'est, il y a des réalisateurs qui travaillent comme ça, en fait, qui estiment que la direction, c'est le choix. Robert Guédiguian, il parle beaucoup de ça. Il dit, oui, moi, je n'ai rien à dire, juste besoin de les choisir. Et c'est vrai qu'en fait, c'est une grande part de la direction. Enfin,
c'est ce qu'il dit. En effet, il dit que la direction d'acteur n'existe pas, que la direction, c'est imposer le texte qu'il a écrit et que son travail consiste à mettre en place, en fait, les contraintes et que vous puissiez, vous, vivre à l'intérieur de celle-ci.
Ça, c'est Pariser qui dit ça. Ça m'étonne pas. Non, il a une grande justesse de choix. Et c'est vrai que même physiquement, puis ça fait plaisir. Il y a des nouveaux visages. Enfin, il y a des gens qu'on voit peu au cinéma. Moi, ça m'a fait plaisir de jouer avec Pascal Rénéric. Enfin, c'est très très bien choisi.
C'est d'une incroyable précision. Alors, il y a des réalisateurs qui ne dirige pas énormément. Il y a des réalisateurs qui dirigent beaucoup plus. On va écouter une réalisatrice qui dirige, elle, beaucoup, avec laquelle vous avez tourné, Anaïs Desmoustiers, c'est Pascale Ferrand. Bonjour Pascale Ferrand.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler avec Anaïs Desmoustiers pour Bird People ?
En fait, j'avais l'impression de savoir très tôt que ça me semblait la comédienne idéale pour le rôle, pour d'assez multiples raisons, je dois dire. Enfin, des raisons qui tiennent au rôle proprement dit. C'est-à-dire, c'est un personnage qui est vraiment à la frontière de l'adolescence et de la jeune femme. Et Anaïs avait pile cet âge-là à ce moment-là. Enfin, dégageait vraiment ça pour moi à ce moment-là. Je trouvais qu'elle avait potentiellement eu un peu une tête de moineau. Enfin, surtout des yeux de moineau. Très dense, très, très sombre et un regard très, très marquant. Et puis, par ailleurs, je l'avais vue quand même dans pas mal de choses à l'époque et je pressentais, mais ça, on n'en est jamais sûr, que j'allais bien travailler avec elle ou qu'on allait bien travailler ensemble. Enfin, qu'il y avait une adéquation dans notre rapport au travail.
Et quelle actrice vous avez découvert sur le tournage ?
C'est une sorte d'actrice de rêve, en fait. Donc, d'abord, dans le travail, elle a un mélange que j'adore absolument, qu'avait beaucoup Marina Hans aussi. C'est-à-dire un mélange de réflexion sur le projet en amont et de profondeur, de recherche de cohérence avec le projet global et d'instinct pur sur le plateau. C'est-à-dire, sur le plateau, ça réfléchit plus, j'allais dire, c'est pas vrai, ça réfléchit d'une autre manière, mais ça ne réfléchit plus que dans l'action, en fait, que dans le présent du moment, que dans être dans le meilleur état pour incarner ce qu'il y a à jouer, ne plus s'occuper que de tout ce qui lui arrive, quoi, comme un flux extérieur, que ça soit la lumière, son partenaire, quand elle en avait un, elle était très souvent seule dans Bird People. Et bon, ça c'est déjà absolument merveilleux. Mais il y a une autre chose que moi j'adore et qui m'aidait beaucoup. Enfin, qui à l'occasion j'avais l'impression me rendait meilleure comme réalisatrice. C'est qu'elle a un rapport très d'appétit et d'engagement très très grand à ce qu'elle fait. Tout ça dans une forme de joie quand ça se passe bien. Et c'était le cas, ça se passait extrêmement bien. Donc c'est quelqu'un de très très joyeux sur un plateau. Et par ailleurs, en plus de tout ça, c'est quelqu'un qui considère absolument que le cinéma est un art collectif, enfin une pratique collective, et qu'il y a quelque chose de l'ordre de la troupe. Elle reste beaucoup sur le plateau, par exemple, même quand elle tourne pas.
Pascale Ferrand, vous êtes réputée pour diriger avec énormément de précision, de rigueur, de chaque plan, et puis le jeu des acteurs. Est-ce que elle, dans le travail, son jeu varie beaucoup, et est-ce qu'elle est très souple comme actrice en fonction de toutes les indications que vous lui donniez?
Elle est très souple, bien sûr. Et puis après, c'est une grande actrice, c'est-à-dire qu'elle est souple jusqu'au moment où elle considère que peut-être elle peut faire mieux que ce que je lui demande ou ce qu'on lui demande, et elle le fait. Et à l'occasion, c'est encore mieux que ce qu'on avait en tête. C'est pas du tout une marionnette. C'est en ça que c'est une grande actrice, évidemment. À exigence, on parle de la mienne, mais la sienne est très très grande aussi. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui a un rapport très 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 grand engagement à son art. Donc elle adore. Enfin, je sens qu'elle adore ça, travailler avec des metteurs en scène dans des genres très très différents, qui la l'occasion la pousse dans ses retranchements. J'ai l'impression qu'elle demande que ça. Enfin, que ce qui peut les films qui peuvent l'ennuyer un peu plus, c'est ceux où il y a quelque chose d'un peu mou dans la demande ou dans la recherche, quoi. Elle est prête à chercher très longtemps.
Quel regard vous portez sur l'évolution de son parcours, qui voilà, ça fait déjà un peu plus de 15 ans qu'elle tourne, puisqu'elle a commencé à 13 ans et qu'on en a 31 et demi aujourd'hui. Quel regard vous portez sur l'évolution de sa carrière?
C'est très très réussi. C'est-à-dire que moi je trouve que là où elle est magnifique, c'est qu'elle fait des très très bons choix. Voilà, c'est quand même une comédienne qui aime à la fois profondément le cinéma et les cinéastes. Qu'elle préférera toujours faire un rôle même un peu moins important avec un cinéaste important pour elle, enfin, dont elle aime l'univers et dans une forme de très grand éclectisme. Donc, ça donne sa filmographie actuelle qui est magnifique, quoi, avec des mélanges de genres très différents Et moi, ce qu'elle fait, par exemple, dans Au Poste, le dernier film
de Quentin Dupieux, oui.
Je trouve ça absolument sidérant. C'est un de drôlerie, d'inattendu. Et j'adore ça. Et j'adore la voir dans des rôles où elle me surprend parce qu'elle va voir des zones d'elle que moi, je ne connaissais pas ou que les spectateurs, d'ailleurs, ne connaissaient pas. Ou tout d'un coup, au contraire, creuser un sillon qu'on connaissait, mais aller l'amener encore plus loin. Enfin, et puis, on sent, il y a effectivement quelque chose où quand on est sur un plateau avec elle, on voit un peu qu'elle est née dedans, quoi. C'est-à-dire qu'elle a commencé très très jeune et que ben un plateau de cinéma c'est sa maison, quoi. Enfin, elle est chez elle à cet endroit-là.
Le Mac de l'été sur France Inter.
Anaïs de Moustier, on sait à quel point Pascal Ferrand est rare dans les médias, donc elle est acceptée vraiment de parler de vous, montre combien elle vous aime.
Quelle chance, ouais, merci beaucoup Pascal Ferrand, je ne sais pas si elle nous entend, mais en tout cas ça m'a beaucoup beaucoup... Non, ça me fait très plaisir, parce que en fait c'est quelqu'un de très,
très
pudique,
ouais.
Et donc c'est rare qu'on parle de Bird People et de ce tournage qui pour moi a été vraiment très 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 important. Je garde un souvenir du travail avec elle magnifique, elle est... Ouais, ça compte beaucoup pour moi ce film. Je pense que c'est un grand film. Enfin voilà, j'ai aucun problème à le dire quoi. Quand je l'ai vu, vraiment, j'étais plus du tout dans des trucs d'actrice à me regarder. Je me suis dit oulala, c'est un grand film. Je suis extrêmement heureuse d'en faire partie, de me dire que plus tard des gens le verront, parce que je pense qu'il a été moins vu que ce qu'il aurait dû.
Mais c'est un film qui restera, je pense.
Je pense que c'est un film qui restera, ouais. Et ça a été incroyable pour moi de travailler avec elle.
Là, c'est un personnage très, très, très différent de celui d'Alice dans le film de Nicolas Pariser, où beaucoup de choses se jouent dans le silence.
Ouais, mais justement, non, j'ai senti des ponts entre les personnages. Enfin, en tout cas, j'y ai pensé, parce que c'est des personnages
qui observent.
Qui écoutent, aussi, ouais, qui écoutent et qui observent et qui ne sont pas particulièrement volontaires, quoi. Qui sont pas non plus passifs, mais qui sont pas excessivement volontaires et imposants. Donc j'ai reconnu une petite note, en tout cas, entre les deux rôles. Et oui, Bird People, c'était cette jeune femme, femme de chambre. Il y avait énormément de scènes dans les silences. Moi, j'avais l'impression d'être un peu sous hypnose, en fait, quand on tournait. C'était une atmosphère très étrange dans des hôtels. Donc on était dans l'hôtel Hilton de Roissy. Donc c'était des décors tout le temps clos et j'étais très souvent seule et en même temps j'avais, comme elle le disait, beaucoup d'actions physiques à faire. J'étais femme de chambre, donc j'avais fait une formation de femme de chambre là-bas et j'étais dans... Enfin, j'aime beaucoup ce qu'elle a dit sur mon plaisir de la réflexion avant les films et ensuite
l'instinct,
mon plaisir
de construire pour pouvoir ensuite
pour pouvoir être libre. Et ça c'est une espèce de richesse de ce métier, je trouve, qui est vraiment génial, quoi. C'est que moi j'adore l'aspect presque sauvage du moment du tournage où on peut effectivement, enfin je veux dire, c'est comme un enfant, quoi, sur un plateau. Un acteur, il est très libre, il peut faire un peu ce qu'il veut, quoi. Et en même temps j'ai besoin d'une cohérence dans le point de vue, dans j'ai besoin de comprendre ce que le cinéaste a envie de raconter sans forcément qu'on en discute, mais j'ai besoin, moi, de le percevoir au moins un peu en amont, quoi. Et elle, j'ai vu tout de suite qu'elle était habitée par quelque chose de tellement singulier que entrer avec elle dans ce film, c'était merveilleux.
Et le fait justement qu'elle vous ait fait faire un stage, parce que voilà, pour tout vous dire, il y a deux jours, on était à Locarno où j'ai interviewé Song Kang-ho, qui est l'acteur de Bong Joon-ho. Mm-hmm. Et lui, il disait qu'un jour, il avait fait un film avec un réalisateur, il jouait un SDF, et le réalisateur voulait que... qui fasse pas un stage avec les SDF, parce que là, ça, l'appeler comme ça, ce serait un peu... En tout cas, qui passe du temps
dans
avec dans la rue. Mm-hmm. Et pour lui, ça n'avait aucun sens de faire ça. Et vous disiez qu'au début, vous étiez un petit peu sceptique du fait de faire ce stage, et qu'en fait, ça a vraiment eu beaucoup de sens. Et il y a quelque chose qui s'est déposé en vous, qui a été essentiel pour le film.
Oui, parce qu'en fait, moi, je suis sceptique. Bah, c'est toujours la grande question, acteur studio ou pas. Est-ce qu'on vit les choses pour pouvoir les jouer et tout ça. Mais là, en fait, elle était extrêmement intelligente de me demander ça, parce que là, il s'agissait de concrètement avoir éprouvé physiquement ce que c'est de passer du temps dans un hôtel et de s'occuper de chambres de gens, c'est-à-dire de rentrer dans l'intimité des gens. Physiquement, c'est extrêmement fatigant. Il y a une fatigue très spécifique à ce métier-là qu'on ne peut pas connaître si on ne l'a pas vécu. Et puis, il y a une dextérité dans les gestes et dans les mouvements. C'est vrai que si j'étais arrivée sur le plateau et qu'elle m'avait dit « allez, fais le lit », enfin voilà, il y avait une espèce de technique pour faire le lit. J'ai oublié malheureusement, mais il y avait... Enfin voilà, il y avait des trucs. Et même, il fallait que ça soit automatique, en fait. Parce que quand on fait des métiers comme ça qui sont physiques, c'est comme les caissières, où il y a un moment, elles ont l'habitude de faire le geste, elles n'y pensent plus. Et puis surtout, elle avait envie que mon personnage soit en permanence dans une forme de rêverie. Et donc, il fallait que moi, j'ai l'esprit libre et que je ne sois pas en train de penser à comment faire les gestes pour que ça soit crédible pour le spectateur et qu'on croit que je suis femme de chambre. Donc, c'était extrêmement juste de demander ça, c'est pas important. Du tout du zèle. Ouais.
Agnès de Musset, quels sont les rôles qui vous ont fait grandir, les étapes?
Parce que voilà, vous avez commencé vraiment, à 13 ans. Il est très important. Avant ça, il y a une rencontre qui a été importante pour moi, c'est Isabelle Tchaïka, avec qui j'ai fait deux films. L'année suivante, quand j'avais 18 ans, et D'amour et d'eau fraîche, un peu plus tard, avec
Marmaille. C'était un peu votre premier rôle de grande, enfin, si je puis dire, de jeune femme,
effectivement, ouais. qui commence à travailler, qui a du mal à se trouver, qui rencontre Pio Marma, qui en devient très amoureuse. C'est une réalisatrice avec qui j'ai beaucoup appris, qui écrit extrêmement bien les scénarios, qui dialogue super bien. Voilà, c'est une femme que j'aime vraiment beaucoup.
Et on a découvert, je trouve, les prémices de la femme que vous êtes aujourd'hui dans ce film, dans D'amour et d'eau fraîche.
Oui, c'est peut-être. Ouais. C'est des films qui sont très différents l'année suivante et D'amour et d'eau fraîche. Enfin, en tout cas, moi, j'étais différente parce que j'ai grandi entre-temps, mais je sais que c'est des films importants sur lesquels j'avais des rôles principaux. Voilà, je tournais tous les jours, c'était important. Après, c'est hyper difficile de parler des rôles qui m'ont fait grandir parce que je pense à chaque fois, il y a des choses. Moi, j'ai énormément aimé travailler avec Ozon. Une nouvelle amie, c'était un rôle, encore une fois, très différent parce que François Ozon, il a une telle patte en tant que cinéaste, il a un tel plaisir de l'esthétique que je trouve que j'étais dans une forme de jeu différent avec lui. Je me suis autorisée des choses, c'était un rôle très stimulant, une femme extrêmement mystérieuse. J'ai eu l'impression là aussi que j'avais accès à une forme de féminité nouvelle qui me plaisait beaucoup.
Oui, c'est un film qui est très sensuel. Vous avez d'ailleurs pas mal de scènes d'amour. On voyait aussi différemment. Ouais.
Et après, Jérôme Bonnel à Trois, on y va, c'était super aussi. J'ai adoré Caprice d'Emmanuel Mouret parce que il a un truc avec la langue incroyable qui fait que c'est, pour les acteurs, c'est très agréable en fait de dire ses textes. Et puis Quentin Dupieux plus récemment.
Voilà, j'allais y venir. Voilà, parce que faut dire quand même que vous êtes aussi très à l'aise dans la comédie parce que j'ai l'impression que vous êtes une actrice extrêmement rythmique.
Oui, alors je sais que j'ai le sens du rythme à peu près et que j'aime la musique et que j'en écoute tout le temps. C'est vrai que j'aime beaucoup ça au théâtre, c'est-à-dire comment deux voix se répondent. Ça a été un grand plaisir avec Lucchini aussi dans Alice et le maire, c'est que son sens du rythme, nos deux rythmes en fait, je trouvais étaient très agréables à mixer quoi. Et donc oui, la comédie ça peut me plaire. Après chez Dupieux, ce qui m'a beaucoup amusé, c'était des choses beaucoup plus triviales quoi. C'est que j'avais une espèce de perruque ridicule sur la tête.
Vous jouiez une écervelée.
Je parlais avec l'accent du Nord. Enfin, d'un coup, j'étais en lâchage complet. Quoi. Ouais. Ça, c'était quand même très agréable. Et puis lui, il est totalement fou, dans le bon sens du terme, dans le sens nécessaire pour les bons cinéastes. Et donc, il est obsessionnel et il y a très peu de gens sur son plateau. Donc, c'est encore un nouveau monde. À chaque fois, quand on tourne un film, on rentre dans le monde de quelqu'un et lui, son monde est génial. Quoi. Il travaille avec sa femme, Joanne Le Boru, qui est passionnante aussi, qui s'occupe des décors, des costumes. Il y a un... Ouais, j'ai adoré découvrir ces gens-là, quoi. C'était vraiment passionnant. Et puis j'oublie Yedi Gian quand même, je ne l'oublie pas puisque j'en parle.
Quatre films.
Mais quatre films. C'est difficile de parler d'un rôle en particulier, mais je dirais que le dernier que j'ai tourné, qui sortira le 28 novembre dans Gloria Mundi,
à Venise, au Festival de Venise.
Ça, c'est mon rôle préféré chez lui parce que c'est une nouvelle chose, quoi. Une chose que j'avais jamais jouée. C'est un film qui est extrêmement dur, en tout cas, sans complaisance sur le monde actuel et qui raconte une sorte de déchirement à l'intérieur d'une famille. Et moi, j'ai un personnage qui est en fait assez violent et on m'avait jamais demandé de jouer quelqu'un de vraiment violent, de vraiment sombre, de vraiment pessimiste, qui n'a plus d'espoir. C'était vraiment super.
Alors, parmi les actrices qui vous ont marqué, je crois, Anaïs de Moustier, il y a Romy Schneider. On va l'écouter.
Romy Schneider, vous ne voulez pas vous juger comme comédienne?
Non.
Mais comme chanteuse, vous vous trouvez comment?
Oh là là, alors, je suis pas une chanteuse du tout. Je l'ai dit, j'étais effrayée. Ils ont venu, Jean-Loup Dabadie et Claude Sauté et Philippe Sard, pour me dire il y a question d'une chanson sur la musique principale du film. Et je dis, mais comment une chanson? Je ne sais pas chanter, qu'est-ce que vous voulez? Puis on a répété chez moi et voilà, j'ai essayé de le faire, j'ai essayé de le jouer. Je le joue plus que je le chante, je ne sais pas. Mais j'ai très très envie de travailler ma voix et de continuer parce que j'aime beaucoup ça. Je trouve c'est formidable, se mettre debout, de chanter, mais il faut le faire mieux.
Mais devant le public, vous aurez peur?
Ah, très, très.
Mais vous le ferez quand même?
Ça, je ne sais pas. C'est un énorme envie, oui. Oui, j'aimerais. Mais c'est un autre métier, on ne peut pas faire tout.
Il faut apprendre.
Ça, je prendrai, je ne sais pas, des années.
C'est bien parti, en tout cas.
Romy Schneider au micro de Jacques Chancel, donc en 1970. Vous avez reconnu, vous m'avez dit tout de suite, c'est Jacques Chancel.
Oui, oui, c'est Jacques Chancel.
Vous écoutez que... beaucoup Jacques Chancel.
Oui, vous me faites penser à Jacques Chancel. Ouais, j'adore. Quand j'écoute vos émissions, je me dis, c'est la nouvelle Jacques Chancel. Non, mais j'adore Jacques Chancel parce que à chaque fois, il y a des entretiens fantastiques. Je sais que celui avec Jacques Brel, il est merveilleux.
Chez Romy Schneider, qu'est-ce qui vous touche, Anaïs de Moustier?
Anaïs de Moustier, chez Romy Schneider, qu'est-ce qui vous touche? Vous pourriez le faire quand même.
Anaïs de Moustier, chez Jacques Chancel, qu'est-ce qui vous touche? Non, chez Romy Schneider, qu'est-ce qui vous touche?
Qu'est-ce qui me touche? Alors, franchement, c'est vraiment assez basique. C'est simplement que quand j'étais enfant, mes parents donc, n'étaient pas forcément très portés vers la culture. On ne regardait pas spécialement de films, on n'allait pas spécialement au musée. Mais on regardait beaucoup Sissi. Et donc j'ai regardé Sissi Impératrice en boucle. On avait souvent une bataille avec ma sœur, elle voulait regarder Fantomas et moi je voulais regarder Sissi. Et donc on passait de l'un à l'autre avec parfois l'As des As qui pointait son nez. Ouais, c'est vraiment une filmographie totalement bizarre.
Mais votre filmographie, elle a été beaucoup faite aussi par votre grand frère Stéphane qui est aujourd'hui réalisateur.
Voilà, mon grand frère au bout d'un moment, m'a montré des films de Piala, des films avec des jeunes actrices, des films de Claude Miller avec Charlotte Gainsbourg. Et puis des films de Sauté d'ailleurs aussi. Et donc oui, pourquoi en parler? Ah oui, Romy Schneider. Romy Schneider. Bah voilà, Sissi. Et puis après, évidemment, j'ai vu des films de Sauté. Et puis voilà, je la trouve magnifique. Elle est extrêmement bouleversante.
Et donc, elle parle du plaisir de chanter. Je crois que c'est quelque chose qui est un plaisir aussi pour vous, Anaïs de Moustier. On vous a entendu chanter par moments dans quelques films. On a pu aussi vous entendre sur scène chanter une chanson, notamment j'ai le souvenir d'une chanson que vous aviez chantée en duo avec Benjamin Biolay lors de son disque où il reprenait les chansons de Charles Trenet. Vous avez quand même quelque chose avec la voix qui est très 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 fort.
Oui. J'aime beaucoup chanter. J'ai toujours la sensation qu'en fait, j'aurais rêvé d'être chanteuse, quoi. Mais sans avoir la formation musicale nécessaire, sans avoir fait de formation classique, donc n'étant pas musicienne, n'arrivant pas pour l'instant à écrire de texte, je ne fais rien. Enfin, je chante quand on me le demande. Mais dans des films, effectivement, avec Ozon, avec Christophe Honoré au théâtre, j'ai chanté.
Mais si on vous proposait une comédie musicale, si on vous proposait d'enregistrer un album,
moi,
vous le feriez.
Oui, je le ferais. Après, oui, je le ferais. Je le ferais si je sens qu'il y a une nécessité, enfin, que c'est juste. Il y a tellement d'actrices qui font des albums, c'est toujours assez difficile, je trouve. Déjà parce que les actrices se sont attendues au tournant, on se dit, ah, qu'est-ce qu'elle fait celle-là, elle pourrait bien chanter. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait un vrai.
Un talent, mais que vous avez.
Il faudrait qu'il y ait quelque chose, ouais. Et puis il faudrait que j'arrive à écrire, je crois. Ce serait ça le truc. Mais j'ai l'impression, j'ai la sensation que c'est une chose qui viendrait avec la maturité. Donc,
laissons vivre.
Je patiente.
Très bien. Anaïs de Moustier, nous avons pour habitude de brosser une sorte de petit portrait chinois de nos invités. Est-ce que vous acceptez de vous prêter à l'exercice?
Bah oui.
Merci. Anaïs de Moustier, si vous étiez un mot.
Joie. Si vous avez l'impression de jouer à des chiffres et des lettres.
Oui, bonjour. Si vous étiez une chanson.
Que reste-t-il de nos amours?
Avez-vous de l'humour quand vous êtes seule?
Non.
Avec quel réalisateur mort auriez-vous rêvé de tourner?
Maurice Pialat.
Vous répondez très vite et très bien. Êtes-vous une amie pour vous-même?
Ça dépend.
Pascal Ferrand dit que vous ressemblez à un moineau. Si vous étiez un animal, Anaïs de Moustier.
Un renard.
Aimeriez-vous redevenir une enfant?
Ah oui.
Pouvez-vous imaginer un monde de femmes?
Non.
Quel espoir avez-vous abandonné?
Aucun.
De quoi êtes-vous reconnaissante?
De l'amour, de ma famille.
C'est le moment de nous pencher sur l'actualité des jours à venir, des rendez-vous repérés par l'équipe du Mac de l'été. Les abattoirs musées d'art de Toulouse proposent jusqu'au 25 août Picasso et l'exil. C'est la première exposition qui traite du rapport qu'entretenait l'artiste avec l'exil. En 1939, après 3 ans de guerre, a eu lieu la Retirada. 500 000 Espagnols ont traversé la frontière pour s'installer dans des camps de réfugiés. Cette exposition restitue donc l'engagement politique de Picasso, la création en exil ainsi que la résistance culturelle. Elle se déploie sur 3 étages et rassemble autour de Picasso 25 artistes de l'exil. Et se poursuit avec le programme Je suis né étranger, avec près de 30 exposition dans toute la région Occitanie.
Direction Saint-Malo pour la 29e édition de la Route du Rock qui aura lieu jusqu'à samedi le 17 août. Les concerts ont débuté depuis hier avec une programmation toujours aussi alléchante et la volonté toujours aussi accrue du festival de promouvoir la musique indé. Chaque année, de beaux noms de la musique électronique viennent aussi s'accorder aux riffs des guitares. Le temps est au décloisonnement. Radio des festivaliers, France Inter sera à Saint-Malo ce soir en direct et en public pour les concerts de Stéréolab et Fontaine d'ici. Une émission spéciale animée par Mélanie Bauer à partir de 21h. Vive le rock!
Il se trouve que nous avons un léger problème de nudistes révolutionnaires dans la région.
Pardon.
Hier est sorti en salle Perdrix, une comédie romantique atypique, le premier long métrage d'Erwan Leduc, qui n'était pas passé inaperçu lors du dernier festival de Cannes à la quinzaine des réalisateurs. Le film raconte l'histoire de Pierre Perdrix, Swann Harlow, capitaine de gendarmerie, qui vit toujours chez sa mère, Fanny Ardant, avec son frère Nicolas Maury et sa nièce, et qui va rencontrer de manière inopinée Juliette Webb, Maud Weiler. À partir de ce moment-là, tout va vriller. On écoute Swann Harlow nous en parler. Alors, il y a trois amours qui se dessinent dans le film. Trois amours plus ou moins heureux. Celui que vous vivez, vous, donc votre personnage s'appelle Pierre Perdrix. Vous êtes gendarme, vous êtes capitaine de gendarmerie. Et puis, tout d'un coup, il y a une sorte d'irruption dans votre vie avec le personnage de Juliette Webb, qui est interprété par Maud Weiler. Et là, il y a quelque chose qui va complètement bousculer et se fissurer dans le cadre très construit dans lequel vous vous êtes un peu enfermé, en tout cas dans lequel vous vivez depuis toujours.
Oui, elle arrive et en fait elle sème le désordre et le désir. Et donc finalement à la fois Pierre Perdrix qui va perdre pied et peut-être s'ouvrir à ce que devrait être sa vie, mais aussi les autres personnages en fait qui vont être modifiés par cette tornade qui débarque dans leur vie et qui les force d'une certaine manière à faire des choix et à décider en fait ce que doit être leur vie. Et elle finalement qui est une espèce de personnage comme ça très très libre et sans filtre et sans attache, elle va peut-être faire le chemin inverse.
Le film est plutôt une comédie, enfin clairement une comédie, même si c'est une comédie qui est, on peut dire une comédie d'auteur, une comédie décalée, burlesque. C'est pas le genre de rôle dans lequel on vous a vu, en tout cas récemment. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le scénario ?
Moi j'ai trouvé ça très drôle. Et à la fois, c'est drôle, mais rien n'est gratuit, rien n'est jamais là. C'est pas des petits gags pour faire rire. En fait, partout, on parle d'amour, du lien comme ça entre les gens. À la fois le lien des gens au travail. Donc là, c'est une gendarmerie. Donc c'est toujours cette idée du bureau et de l'uniforme et de comment on fait en fait pour communiquer avec des gens qu'on côtoie toute une vie alors qu'on les a pas choisis. Et puis aussi les liens familiaux. Enfin, en tout cas, voilà. Et plusieurs manières, beaucoup de manières différentes de parler d'amour. Et donc, cet humour n'est jamais gratuit. Il est toujours au service d'une pensée, en fait, un peu profonde. Mine de rien, comme ça, avec légèreté. Donc, ouais, le scénario m'a totalement emballé. Après, j'ai toujours pensé, je le pense encore, que c'est pas exactement mon emploi. Donc, j'étais pas dans une situation très confortable. Donc ça, à la fois, ça donne envie d'y aller, parce qu'on se dit, tiens, il y a quelque chose de nouveau à tenter. Et en même temps, ça met dans une drôle de position, parce que moi, je savais jamais vraiment ce que j'étais en train de faire. Je me suis un peu abandonné au réalisateur, parce que je lui faisais confiance, et je me suis dit, bon, bah lui, il doit savoir pourquoi il m'a choisi. Mais j'avais un peu... C'est comme si j'étais un peu le seul personnage normal, entre guillemets, qui observait cette galerie de personnages loufoques. Et en fait, c'est ce qui m'est arrivé. Moi, j'étais sur le plateau et donc je les regardais comme ça, un peu étonné et fasciné. Et finalement, le personnage est un peu comme ça.
Bah oui, c'est ce qu'on sent en effet. Et je dois dire, c'est ce qui est beau dans votre personnage, c'est que vous ne cherchez pas la comédie, vous ne fabriquez pas. On voit qu'il n'y a aucun volontarisme comique de votre part. Et en fait, c'est ça qui est drôle.
Bah, tant mieux si c'est drôle. C'est vrai que je crois que c'est ce qu'il y a de plus difficile, la comédie, c'est qu'il faut jamais essayer d'être drôle. Et évidemment, nous, les comédiens, on est tous un peu cabots, forcément. Donc, à un moment, on a envie d'y aller. Et en fait, il faut à chaque fois refréder ce mouvement et juste dire le texte. Et c'est les situations et le rythme qui fait que ça va être drôle. Mais Bah, je suis content si vous trouvez que je suis un peu drôle, parce que moi, quand je vois le film, je me trouve pas drôle.
Si, parce que vous êtes drôle et touchant. C'est pas mal.
Ouais, bah, tant mieux.
Le Mac de l'été sur France Inter.
Anaïs de Moustier, est-ce qu'il y a des choses qui vous tentent dans cet agenda culturel?
Rien du tout. complètement fermé. Non, si, moi j'ai très envie de voir Perdri, parce qu'on était ensemble à la quinzaine des réalisateurs avec Erwan Leduc et
c'est un film qui a l'air d'avoir une... Vous avez joué deux fois.
Oui, voilà, je connais bien Swan, j'aime beaucoup le voir jouer et c'est un film que j'ai envie d'aller voir pour sa singularité. J'ai l'impression que c'est loufoque et...
Oui, l'écriture aussi est assez loufoque. Ouais.
Ça peut m'intéresser.
Est-ce que vous avez le souvenir, Anaïs de Moustier, de votre première grande émotion culturelle?
Non, parce que comme je vous le disais, chez moi, c'était pas non plus le délire.
Ça peut être tard, ça peut être à 15 ans, à 17 ans.
Je crois quand même que je me souviens quand j'ai vu L'Enfer de Claude Sautet, avec François Cluzet et Emmanuel Béart, je me souviens d'avoir eu un choc. Donc ça, c'est mon frère qui m'avait montré ce film en VHS. Et je me rappelle, après, de la nuit, enfin, j'avais vraiment toute la nuit rêvé du film, pensé au film. J'avais vraiment, vraiment cru à la jalousie féroce de Cluzet et ça m'avait assez déstabilisée. Et puis j'étais très fascinée par la beauté d'Emmanuel Béart. Je me disais, mais j'avais réussi à aimer une femme, quoi.
Pas mal.
Le temps du film, ouais.
Votre frère Stéphane de Moustier, donc il est réalisateur. Vous venez de tourner un film ensemble. Il vous a beaucoup accompagné au début hein, sur vos tournages, sur tout ça. Le fait de jouer avec lui aujourd'hui, est-ce que c'était finalement plus intimidant qu'avec un autre réalisateur?
Bah, c'était très joyeux, ça me paraissait assez évident parce qu'on est extrêmement complices dans la vie et que d'un coup partager un plateau de cinéma c'était une chance. Après c'est vrai que j'avais une pression supplémentaire, j'avais pas envie de le décevoir, c'était un rôle extrêmement différent. Encore une fois,
je joue le procureur
de la République, donc c'était pas un rôle facile et en fait il me l'a confié avec en me donnant toute la confiance nécessaire pour tenter d'y arriver et c'était génial. C'était vraiment génial, on a une espèce de rapidité à se comprendre, à échanger. Je savais exactement ce qu'il voulait, j'essayais de... Enfin voilà, ça va très vite entre nous, donc même quand je tournais pas, je restais sur le plateau pour observer. Après, j'avais une empathie démesurée, enfin d'habitude, le réalisateur, enfin s'il y a un accessoiriste qui regarde son portable, je m'en fous. Là, j'étais excédée, quoi. Je me disais, mais c'est quoi ce mec?
C'est le manque de concentration.
Donc non, c'était bien.
On va écouter, avant de se dire au revoir, Anaïs de Moustier, Pourquoi tu cries, par Johan Papa Constantino, playlist de France Inter. Par Johan Papa Constantino. Merci beaucoup Anaïs Demoustier d'avoir été en direct avec nous sur France Inter. C'était une très grande joie. Je rappelle que vos films Alice et le maire de Nicolas Pariser sortira en salle le 2 octobre, que Gloria Mundi de Robert Guédiguian sera présentée au Festival de Venise et sortira le 27 novembre, et que La fille au bracelet sera présentée au Festival d'Angoulême la semaine prochaine, mais nous en reparlerons avec Stéphane Demoustier. Cette émission a été préparée par Élodie Royer et Marion Philippe avec l'aide de Maëlane Loaec. Elle a été réalisée par Clément Baudet, à la programmation musicale Elsa Béranger et à la prise de son aujourd'hui Maxime Ingrand. Après le journal, vous avez rendez-vous avec Éric Delvaux pour Le Téléphone Sonne. Bonne soirée sur France Inter.